Alors, bonjour et bienvenue à tous. Je suis très contente de vous voir aujourd'hui. Puis vraiment, je vous remercie beaucoup d'être là. Je vais aussi saluer tous les gens donc, qui nous écoutent en webdiffusion, qui sont plus de 800 personnes. Alors, on est nombreux aujourd'hui. Donc, je voudrais saluer tout le monde et remercier tout le monde d'assister à cet événement-là. Je pense que c'est un événement important. C'est une journée importante aujourd'hui et on voulait profiter du momentum. C'est la Journée internationale de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Alors, on voulait profiter du momentum pour avoir cette discussion-là aujourd'hui ensemble. Donc, on a une très, très belle brochette d'invités, de panélistes. Alors, on voulait donner des outils. D'abord, notre objectif à l'heure des psychologues, c'est d'aider les gens à comprendre. Donc, comprendre la personne qui vit avec un trouble neurocognitif ou une maladie d'Alzheimer, mais comprendre aussi ce que vivent les proches aidants. Il y en a combien ici qui sont proches aidants? Ben, bravo. Et donc, on voulait aider à comprendre cette réalité-là. Alors, le but, c'est qu'on est convaincu que quand on comprend mieux, on agit mieux. Parce que vous savez, la maltraitance financière, la maltraitance physique, c'est des maltraitances qui sont bien évidentes. Donc, quand on subtilise de l'argent à quelqu'un, qu'on fait pression pour obtenir des sommes de cette personne-là, ou encore quand on la brusque physiquement, ou quand on donne des mauvais soins de toutes les sortes de façons, on se doute pas. Mais la maltraitance psychologique, elle est beaucoup plus insidieuse parce que souvent, elle arrive parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans la tête de la personne. Et donc, c'est la majeure des raisons pour lesquelles la maltraitance psychologique arrive. Ce qui est encore pire, c'est que des fois, on pense qu'on est bien traitant, mais on ne l'est pas, justement parce qu'on ne comprend pas nécessairement ce que la personne souhaite, ce que la personne veut, ou encore ce dont la personne a besoin. Puis parfois, elle arrive aussi parce que les proches aidants sont épuisés. Ça peut arriver. Donc, il faut essayer de concilier tout ça. Alors, avant de commencer, je voudrais présenter donc nos panélistes. Alors, j'y vais dans l'ordre de ma fiche, mais Madame Sylvie Grenier. Donc, Madame Sylvie Grenier, qui est directrice de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Madame Grenier, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un grand plaisir. Madame Lucie Lagara. Donc, Madame Agara est neuropsychologue, psychologue à l'Institut Univers, pardon, à l'Institut universitaire, quel lapsus, de gériatrie de Montréal. Donc, merci Madame Agara d'être avec nous. Et finalement, Madame Nathalie Choquette.
Bonjour.
Madame Nathalie Choquette, qui est artiste, chanteuse, mais surtout proche aidante, c'est pour ça qu'elle est avec nous aujourd'hui. Alors, mesdames, d'entrée de jeu, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça que vous nous parliez tour à tour de votre expérience avec la maladie ou avec la proche aidance. J'ai envie de commencer peut-être par vous, Madame Agar.
Oui, pas de problème. Donc, ben, bonjour tout le monde. Merci pour votre présence. Donc, je suis Lucie Lagara, je suis psychologue. Je travaille au CIUS, Centre-Sud de l'île de Montréal, à l'Institut de gériatrie de Montréal, aux cliniques externes et notamment avec des patients et des proches aidants en lien avec les troubles neurocognitifs. Ça fait quand même plusieurs années maintenant que je me spécialise en gériatrie, en gérontologie. Au fil de mon parcours, j'ai pu voir un petit peu tous les milieux finalement, là, les cliniques d'évaluation, les centres de jour, les centres d'hébergement, les activités, etc. Puis ça fait une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans que je me consacre plus à la psychothérapie, donc pour les personnes atteintes et pour les proches aidants.
Merci beaucoup d'être avec nous, Madame Agar. Madame Grenier.
Je suis Sylvie Grenier, je dirige depuis 5 ans la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, qui, elle, s'emploie quotidiennement, surtout le territoire du Québec, à offrir des services tant aux proches aidants qu'aux personnes qui vivent avec la maladie. Mon parcours à travers la maladie a commencé depuis près de 25 ans, quand j'ai été moi-même personnellement interpellée par la maladie avec ma mère, où dès les premiers doutes, dès les premiers symptômes, j'étais à ses côtés et je l'ai accompagnée pendant 10 ans dans son parcours à elle. Et sur l'entrefaite, sur mon parcours professionnel, s'est présenté des opportunités, je dirais, ou encore des portes qui sont ouvertes afin que je puisse travailler aussi maintenant à supporter les personnes proches aidantes et faire en sorte que partout à travers le Québec, on puisse avoir accès à des services de qualité et de proximité, pour, tant pour les personnes atteintes que pour les proches qui vivent avec ces personnes ou qui les accompagnent. Donc, et les préoccupations au niveau de la maltraitance, moi, je pense, la maltraitance, la malveillance, parce qu'effectivement, ça peut, pour moi, c'est insidieux avec la maladie d'Alzheimer. Et ça, il y a tout part du regard qu'on pose sur la personne à partir du moment où on sait qu'elle est atteinte.
Merci beaucoup, Mme Meunier, d'être avec nous. Madame Choquet?
Ça fait longtemps que je suis proche aidante. Ça a commencé quand j'étais toute jeune mariée, quand ma belle-mère est arrivée en catastrophe du Liban, très malade, et elle ne pouvait pas vivre toute seule. Donc, elle a vécu chez nous pendant 10 ans. Et ça a été pour moi toute une expérience et d'apprentissage. C'est pas nécessairement facile, mais je me suis vraiment attachée à elle. Et finalement, on était des proches aidantes toutes les deux, l'une envers l'autre, parce que j'avais ma petite Florence qu'elle berçait souvent dans ses bras, puis elle faisait de la bonne cuisine aussi. Donc, c'était ma première expérience. Ensuite, la deuxième, ça a été pour ma fille Florence quand elle a eu sa dépression il y a environ 12 ans. Donc ça, ça a été aussi assez... Enfin, je pense vraiment très éprouvant, mais les miracles existent grâce à des personnes comme, comme vous, les psychologues, psychiatres et tout, et à l'entourage qui nous supporte aussi, parce que même les proches aidants ont besoin d'aidants pour passer à travers ces choses-là. Et ensuite, ça a été pour mon père, qui est décédé il y a 7 ans, et donc 6 ans. Et donc, pendant les 2 dernières années de sa vie, s'occuper de toutes ces choses et tout, et il habitait à Ottawa, le déménager et tout. Et depuis le décès de mon père, ben c'est pour ma maman. Donc, c'est ma maman que je soutiens. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'assez naturel chez l'être humain d'aider les autres. C'est pas facile, mais quand on sait qu'on ne peut pas dormir en paix, et si on ne le fait pas, ben on sait que quelque part, ça comble aussi chez nous un besoin de partage qui est profondément humain.
Merci, Mme Choquette. Je pense qu'on pourrait vous décerner un doctorat honoris causa en prochaine danse. Tout le monde approuverait. Alors, moi, je suis Christine Groux. Je suis présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Avant d'être à la présidence de l'Ordre, je travaillais 30 ans comme neuropsychologue. Donc, auprès de... C'est sûr que j'ai vu beaucoup dans ma pratique une clientèle qui a souffert de troubles neurocognitifs dégénératifs. J'en ai évalué beaucoup. J'en ai suivi plusieurs. Et je travaille encore à faire du suivi thérapeutique avec des proches aidants parce que c'est une réalité que je connais aussi personnellement. J'ai été proche aidante dans ma vie également. Alors, donc, c'est toujours, on connaît tous les côtés du lit et toutes les facettes de cette réalité qui nous touche tous. Je prends un petit moment pour remercier la direction des communications et tous les gens des communications de l'Ordre qui sont ici pour l'organisation de l'événement et pour le travail qu'ils ont fait. Parce que quand on organise un événement comme ça, les choses ont l'air faciles, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé derrière. Alors, merci à vous. J'aimerais qu'on revienne sur la maltraitance. Pour moi, je l'ai dit tantôt, la maltraitance psychologique, parce que c'est surtout de celle-là qu'on va parler aujourd'hui, hein. C'est sournois, c'est insidieux. Ça arrive parce que la personne perd un peu son statut, parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe, parce qu'elle a des comportements qui sont difficiles à comprendre, des émotions qui sont difficiles à comprendre, parce que les gens... Madame Grenier, j'aimerais ça que vous nous parliez, que vous commenciez en fait, que vous nous parliez de ce que vous observez, des comportements de maltraitance que vous observez, des comportements qui devraient peut-être être évités aussi.
Oui, il y en a quelques-uns. Je suis toujours extrêmement sensible à comment on traite les personnes qui vivent avec la maladie, comment on les traite, comment comment on intervient particulièrement auprès d'eux, ou on n'intervient pas. D'abord, la maladie d'Alzheimer, je dirais que c'est à peu près la seule maladie de laquelle on rit. On va faire des blagues. Pas beaucoup de maladies pour laquelle on dit, ben, fais attention, t'es Alzheimer, restant. Donc, à chaque fois, j'ai comme un petit crunch dans le dos là, qui me fait comme, waouh. Et aussi, comment on considère la personne qui vit avec la maladie. Dans le sens où les gens ont peur hein, d'aller chercher un diagnostic. Moi-même, la première, j'aurais peur. Mais pourquoi? Parce que après ça, t'oses pas dire que tu as des symptômes. Parce que ce que tu entends, ce que tu vois autour de toi, c'est qu'à partir du moment où tu entends dire que ton copain François, c'est, il est Alzheimer à cette heure. Donc, on ne devient pas la maladie et on l'entend combien de fois? Ouais, mais tu sais, ma mère est Alzheimer. Donc, on devient la maladie dans l'œil de l'autre. Donc, et à partir de là, quand tu as ton diagnostic, ben, il se passe quelque chose dans la nuit qui fait que le lendemain matin, tu n'es plus là. On ne te considère plus comme une personne. On parle de toi, à côté de toi, comme si tu n'étais plus là, en fait. Moi, je me mets toujours dans la peau de la personne qui entend son proche parler à un ami qui dit « Ouais, mais tu sais, un matin, ça s'est passé de telle façon, il s'est passé de telle chose. » Et que la personne, la mère, est à côté et elle entend ça. Je deviens très méchant, je pense. Donc, et c'est plus cette méconnaissance de maladie, la peur aussi, comme prochain aidant, on reçoit comme accompagnateur de dire « Oh my God, qu'est-ce qui m'attend? » Mais on accompagne une personne. Ça aussi, hein, le mot « accompagner », on dit, on prend ça, mais on accompagne. La Société Alzheimer de Québec a fait un magnifique vidéo avec une personne atteinte en début de maladie, ou wow, ça faisait quand même une couple d'années qu'elle était atteinte. Puis, elle raconte un petit peu son parcours. Et puis, elle dit, vous savez, l'attente que j'ai, c'est ne me devancez pas, accompagnez-moi. Ça fait une méchante différence. Quand tu prends soin de quelqu'un, tu en prends soin, c'est correct. Mais accompagner quelqu'un, c'est de la prendre par le bras et de faire le chemin avec. Et non pas de prétendre avant elle de ce qu'elle n'est plus capable de faire aussi. Ce que je trouve extrêmement difficile aussi, c'est dans la communauté, des expériences que j'ai vécues personnellement, de me présenter, ma mère me demande à moi d'aller à la caisse parce qu'elle sait qu'elle est atteinte. Puis, ben là, il faut arranger les affaires. Je mentionne que tu as une procuration. Parfait, on va aller à la caisse, on prend rendez-vous. Et on s'assoit, ma mère et moi, dans le bureau de la conseillère, je me dis. Et la dame me demande à ma mère ce qu'elle veut. Ma mère lui répond, ben, je suis avec ma fille, j'aimerais ça autoriser. Puis elle dit, ah, parfait. Et là, ma mère lui dit qu'elle a eu un diagnostic d'Alzheimer. À partir de ce moment-là, c'est ma mère qui avait exprimé tous ses besoins et tout ça. À partir de ce moment-là, la conseillère, c'est à moi qu'elle parle. Elle me regardait, elle me disait, mais oui, mais est-ce que vous voulez faire ça? Est-ce que vous voulez? Puis là, moi, je me retournais vers ma mère. Maman, tu veux faire ça? Et elle n'a plus jamais adressé la parole à ma mère. C'est un exemple que je vous donne. J'en ai vu des dizaines. À la société, j'ai dirigé pendant 5 ans la Société Alzheimer de la Rive-Sud, où on offre de l'hébergement. J'étais choyée. Hein. Quand le matin, ça ne marchait pas dans le bureau, là, je partais, j'allais marcher dans la résidence, je me souvenais pourquoi j'étais là. Mais j'ai vu des familles, j'en ai rencontré beaucoup. Et ça m'agressait à chaque fois qu'un proche venait s'asseoir à la table avec son père, sa mère ou la personne qui venait visiter. Et la personne est là, il parle d'elle. Puis là, il n'est pas content, ou il dit telle affaire, mais oui, mais à ce temps, il n'est plus capable de. La personne est à côté. Et c'est comme si elle n'était plus là. Combien de fois on entendait, oui, mais tu sais, Roger, il n'est plus là, là. Mm. En tout cas, je trouve que c'est de l'agression. Donc, c'est les expériences que j'ai vécues qui font en sorte qu'aujourd'hui, je veux vraiment que mon travail sur faire en sorte d'éduquer les gens aussi, mais de faire en sorte qu'on considère toujours la personne qui vit avec la maladie comme une personne à part entière aussi, qui a aussi des choix à faire et de ne pas considérer qu'elle n'est plus là.
Merci beaucoup, Mme Grenier. On a l'autre
ah, oui.
Lectrice, c'est super mignon. Et Mme Agara, est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi?
Oui, c'est sûr que ça peut s'observer, effectivement. Je pense que c'est quand on parle de maltraitance, il y a la question de l'intentionnalité ou pas, là, que ce soit intentionnel ou pas, ça peut rester de la maltraitance quand même. J'ai jamais vu de proche aidant qui avait de mauvaises intentions. Mais c'est vrai qu'on peut observer ces exemples-là de la part des proches ou dans la société en général, là, ou les proches plus éloignés. Je pense qu'au niveau, chez les proches aidants, chez dans l'entourage, la réaction qu'on a au niveau émotionnel, psychologique, c'est tellement difficile de passer au travers de ce deuil-là, du deuil blanc, du deuil de la personne, puis en même temps de trouver l'énergie de continuer de l'accompagner, que ben, par moment, quand on est en souffrance ou qu'on a des difficultés, ben, il y a toutes sortes de mécanismes qui entrent en jeu. Donc, des fois, pour se protéger, peut-être qu'on se met plus à distance parce que finalement, c'est trop dur émotionnellement à supporter. Peut-être que parfois, c'est comme on l'a dit, je suis tout à fait d'accord, juste une mauvaise compréhension de comment la maladie s'exprime en termes de comportement de la personne atteinte. Donc, d'améliorer la compréhension, je pense que ça change beaucoup le regard du proche aidant, la façon dont il va pouvoir s'ajuster aux besoins de la personne.
Je pense que s'il y avait une chose à retenir, moi, ce que j'ai vu dans ma pratique, c'est exactement ce que Mme Grenier décrivait aussi, c'est-à-dire c'est des gens qui ont peur de se faire évaluer, mais qui ont peur surtout de le diffuser parce que le stigma est très, très fort. Puis c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on apprend qu'on est porteur d'un trouble cardiaque, de n'importe quel problème de santé dans la vie, en général, on n'est pas nécessairement gêné de le dire. Mais la maladie d'Alzheimer, on devient la maladie plutôt que d'être quelqu'un qui vit avec sa maladie, cette maladie-là, c'est du tout ou rien. Alors, cette peur que le regard des autres change sur nous et que tout ce qu'on fait soit interprété en fonction du symptôme ou encore qu'on disparaisse, qu'on nous fasse disparaître avant qu'on soit disparu parce qu'on ne disparaît pas. Donc, on demeure. Il y a des choses qui demeurent. Alors, je pense que c'est une chose à retenir, c'est de se rappeler que la personne reste une personne à part entière et que, de toute façon, dans n'importe quel contexte de maladie, on ne doit jamais évacuer la personne de ses soins. Et on doit l'accompagner, on doit rester partenaire plutôt que de l'évincer, finalement, et de décider pour elle. Et Mme Agara a bien souligné que, ben, puis ça, je pense que c'est un autre message, la maltraitance psychologique est souvent non intentionnelle. Tu sais, on ne fait pas ça en se levant le matin en disant « j'ai envie de maltraiter ». On ignore que c'est ça qu'on fait, justement. J'aimerais ça qu'on parle un peu de communication. Je pense que je vais commencer avec vous, Mme Agara. Ça arrive que la personne devient impatiente, irritable, agressive. Souvent, les gens vont décrire aussi une incommunicabilité, pas nécessairement dans les premiers stades de la maladie, mais c'est le fait de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre, de le communiquer, de pouvoir parler. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à cet égard-là?
Effectivement, c'est souvent rapporté par les proches aidants comme une des plus grosses difficultés là, dans la vie quotidienne, au-delà des tâches qu'on fait, de l'aide qu'on apporte à la personne. Mais ben, comment réagir quand la personne s'impatiente ou qu'elle repose la même question plein de fois? Puis on le sait, là, quand on est plus fatigué, qu'on n'a pas bien dormi, qu'on est stressé, on peut être plus à fleur de peau, puis on peut réagir beaucoup plus rapidement. Puis on voit beaucoup en tout cas, un cercle vicieux là, de ben, « je suis fatigué, je deviens impatient, puis là, mon proche devient impatient aussi, là, je m'en veux, je culpabilise ». Donc, on voit beaucoup là, ce cercle-là là, chez les proches aidants. Donc, comment réagir dans ces situations-là? Encore une fois, je pense que de bien comprendre la maladie, que la personne ne fait pas nécessairement ces choses-là intentionnellement, mais qu'il y a souvent un besoin derrière, si on arrive à se mettre à sa place, puis essayer de comprendre ce qui se passe pour elle, ben, on va peut-être trouver une autre façon, peut-être plus créative de réagir. On a beaucoup tendance naturellement à, dans nos communications, là, en général dans la vie, à expliquer beaucoup les choses, avoir une approche, on donne des arguments, on explique, on fait appel à la réalité des choses, à la logique, mais ça ne marche pas toujours ce type de communication-là avec la personne atteinte. Donc, des fois, ça peut arriver que la personne va, ben, elle sent sûrement incomprise, puis elle va peut-être réagir d'une façon à laquelle on ne s'attendait pas. Donc, dans ces cas-là, peut-être de basculer plus dans le registre ben, des émotions, de l'empathie, de dire « ah ben je vois que tu es mal à l'aise ou je vois que ça te stresse. Donc, de commencer par plus adresser ça pour qu'au moins la personne sente que on est là avec elle, on comprend ce qu'elle vit. On ne va pas dans le registre de la logique, expliquer exactement ce qui se passe, mais plus dans le registre de comment la personne se sent sur le moment. Ça, je trouve que c'est quand même une stratégie qui est intéressante. Par contre, puis on le répète souvent, là, ben, faut être patient, faut se mettre à la place de la personne. Ça, c'est des choses qu'on peut faire que quand on est reposé, quand on est en pleine possession de ses moyens, d'où l'importance vraiment cruciale d'aller chercher du soutien comme proche aidant, d'aller chercher des gens qui vont être à notre écoute aussi, qui vont nous aider à trouver des solutions à certains problèmes pour ben, pouvoir avoir cette belle approche qu'on recommande qui est plus en adéquation avec les besoins de la personne. Si on est trop fatigué, épuisé, en détresse, ça va être beaucoup plus difficile de s'ajuster.
On va en parler tantôt des besoins des prochains aidants. Madame Choquette, vous avez certainement vécu des difficultés de communication. Est-ce que vous avez développé des stratégies? Devant surtout l'impatience, l'irritabilité, les...
Oui, c'était surtout l'expérience avec ma fille et mon père. Il y avait... Ma fille, premièrement, vous parliez du tabou quand elle a eu sa dépression. Elle, au début, on savait pas ce que c'était. Elle voulait surtout pas qu'on en parle parce qu'elle était une personnalité publique. Elle disait, il faut pas que les gens sachent que je suis pas bien parce que ça va ruiner ma carrière. Donc, toute la famille, on en parlait juste entre nous, mais même pour mes autres filles qui étaient adolescentes à l'époque, ça s'est manifesté. C'était tellement lourd à porter. Parce qu'on n'osait pas demander de l'aide. Mais finalement, quand Florence a été hospitalisée, ça a été quelque part très difficile parce qu'elle continuait chaque fois que j'allais la voir. Elle me disait, pourquoi tu m'as enfermée ici? Tu as ruiné ma vie, ma carrière. Et puis moi, en tant que mère, c'était comme déjà que on se demande qu'est-ce que j'ai fait pas correct dans mon éducation, dans moi, est-ce que je l'ai pas assez aimé, etc. Donc, je vivais une énorme culpabilité, puis à chaque fois, et c'était difficile pour moi de détacher le fait que ma fille était malade et que ce que j'entendais, ça voulait, c'était pas nécessairement ce qu'elle voulait dire. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Et finalement, ce que je faisais, c'est que j'allais la voir, je l'écoutais, puis mais j'avais envie de répondre. J'étais voyante. Mais j'appelais tous mes amis à chaque fois que je sortais tous les jours de ma visite. Je disais, est-ce que j'ai bien fait de l'envoyer à l'hôpital? Parce que même moi, je me posais des questions si j'avais fait la bonne chose. Puis ils me remontaient, ils disaient, oui, c'est ça qu'il fallait faire, etc. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement difficile de communiquer. Je ne sais pas si on peut dire normalement, mais il y a d'autres façons de communiquer, mais... Ça, c'était, l'impact était extrêmement difficile. Puis mon père, ben, lui, c'est qu'il avait déjà dans sa vie un caractère, c'est soupe au lait. Et parfois, ses caractéristiques sont très accentuées dans la maladie aussi. Et il s'énervait. Il voulait que j'aille lui chercher un médicament qui l'aidait à dormir, mais il n'était pas censé le faire. Et puis il dit, oui, mais j'ai une prescription d'Ottawa, mais voilà, c'était devenu... Tous les jours, là, il ne parlait que de ça. Puis moi, je me disais, mais je ne suis pas censée lui donner. Puis je savais plus comment le gérer. Et alors, encore une fois, ma façon de m'en sortir, c'était d'appeler ma sœur après, de lui dire, et juste de parler de cette chose-là, ça nous aide à passer à travers le moment. Il nous donne le courage d'affronter le prochain. Puis, mais à travers tout ça, il y a tellement de moments aussi de reconnaissance, c'est-à-dire d'appréciation. On le sent même si la personne est perturbée. C'est juste, des fois juste un petit geste où ma mère avait sorti une phrase un jour qui m'a comme tellement bouleversée. Elle me regardait dans son lit. Puis elle me dit, en tout cas, j'espère... Et ça, elle avait comme 91 ans quand elle m'a dit ça. J'espère vivre assez longtemps pour t'aider quand tu seras vieille.
C'est magnifique.
Je trouve que Oui, ça veut tout dire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas choisi ça. Elle voudrait, elle, continuer à être ma mère comme elle
Mais
avait
c'était
toujours
votre
été.
mère.
Alors qu'elle me dit toujours, je vous présente ma nouvelle maman, et c'est en me montrant moi. Donc, ce sont toutes ces choses-là qui font que le chemin de la prochaine danse est illuminé de ces moments de beauté. Puis c'est ça qui donne la force aussi de continuer malgré tout.
Merci, merci beaucoup. Merci. Madame Grenier, est-ce que vous avez des stratégies qui vous viennent en tête pour aider les gens à communiquer devant l'incommunicabilité qu'on voit parfois?
Bien, des stratégies, je pense qu'il peut y en avoir plusieurs. Ça dépend. Je pense que la personne proche aidante est celle qui connaît mieux la personne qu'elle accompagne. Et la personne qu'elle accompagne sait très bien qui est son, j'ai envie de dire, son poteau. Donc, moi, ce que j'ai développé, ce que j'ai remarqué chez d'autres aussi, c'est quand on connaît la personne, quand on voit des problèmes de communication, des agissements qu'on ne comprend pas ou qui nous heurtent, en fait. Hein. Il y a des fois où c'est heurtant de dire wow, mais qu'est-ce qu'elle vient de dire là? Ou encore, est-ce qu'ils peuvent être méchants aussi? Méchants dans le sens de dire des choses où ils expriment eux la frustration d'être dans cette condition-là, en fait. Là. Donc, et ça rebondit toujours chez la personne avec laquelle ils ont plus confiance. Ça va être la personne la mieux près d'eux parce qu'ils savent qu'ils vont rester. Alors, je ne suis pas psychologue, là, mais je l'ai vécu assez pour savoir. Ah, Colin, devine, tu sais que je vais revenir pareil, tu sais. Mais où je le voyais aussi chez les gens qu'on a accompagnés. Puis, la réflexion que moi j'avais, c'était de dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit comme ça, là? Qu'est-ce qui est arrivé? Si j'arrivais chez elle, parce qu'elle était quand même, on demeurait proche, donc elle était, j'arrivais chez elle, puis ça partait assez bien. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il quelqu'un qui l'a appelé, puis je savais pas. Fait que c'était d'essayer de désamorcer, d'essayer de comprendre. Et une fois aussi où elle était pas de bonne humeur, ma mère, puis je vous dis ça parce que j'essaie d'épargner aussi tous les résidents que j'ai vu tellement d'ailleurs. Mais cette fois-là, je vais voir ma mère, puis je lui dis, écoute, maman, c'est ma soeur, c'est mon autre soeur qui va me dire, qui va être présente parce que moi, je m'en vais en vacances. Le lendemain, ben, je suis retournée à la fin de l'après-midi et elle était hors d'elle. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, ça pour réaliser, puis là, elle me dit, c'est ça, puis moi, j'en ai pas de vacances. Fait que, je fais une histoire courte, mais je dis, ben, OK, maman, si tu veux, je vais te reconduire chez tes cousines. Là, je l'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup aller. Dis-moi quand, appelle-la, là, puis tout ça. Moi, dans ma tête, là, tu sais, je pense que je fais une bonne affaire. Là, je reviens, puis, bon, ça marche pas. Tu sais, là, j'ai réalisé que c'est pas ça qu'elle veut. J'ai fait, qu'est-ce qui bloque, là? Comment ça se fait que ça marche pas? Là, j'ai compris. J'ai dit, OK. Elle sait qu'elle est bien, dans son environnement, elle fonctionne bien. Si on la sort de là, elle s'en va chez ses cousines, que moi, je lui avais dit, ben moi, je vais passer du temps chez une amie. Là, ça ne marchait pas. Elle ne sait plus quand est-ce que je vais revenir. Quand est-ce que. Quand est-ce, ouais, elle m'a dit qu'elle reviendrait, mais là, rendu là, la notion du temps, ça n'existe plus. Elle n'est plus dans son environnement. Elle perd ses repères. Fait que finalement, on est parti en vacances ensemble. On est allé faire un tour dans une région du Québec. Ça a super bien été, sauf qu'elle a oublié ses vêtements en arrière de sa porte de chambre. Mais bon, ça a super bien été, puis ça, c'était correct pour elle. Mais c'était de comprendre qu'est-ce qui motivait ce comportement-là aussi, que je ne comprenais pas. Puis c'est facile, cet exemple-là. Il y a des fois où c'est beaucoup plus complexe aussi, parce que ça nous appartient. On dit souvent que les personnes qui vivent avec la maladie sont agressives. Et faites attention, elles peuvent être agressives. Mais si la personne n'a pas une nature agressive, qu'est-ce qui provoque ça? Qu'est-ce qui provoque ça? Est-ce que c'est parce que moi, je parlais au téléphone puis je viens de dire qu'à soir, ça avait mal été puis tout ça, puis que tout de. Puis là, il a compris, puis il choque. Est-ce que ça veut dire, à la résidence, on le voyait souvent, un monsieur d'une douceur. Enfin, un soir, il s'est choqué. Mais ça faisait 3 fois qu'il essayait de dire qu'il voulait telle chose, puis bon, il répondait pas. Fait que, en tout cas, moi, je suis convaincu que quand on creuse un petit peu, quand on change notre façon de voir, nous, les choses à travers de ça, quand on ne se sent pas la victime à travers de ça aussi. Puis je pense que la meilleure façon de prévenir justement qu'on devienne nous-mêmes en tant que proche ou en tant qu'accompagnateur agressif, Le plus grand service qu'on peut rendre aux personnes qu'on accompagne, c'est d'aller chercher du soutien. D'aller chercher, d'aller ventiler, d'appeler quelqu'un, dire « Excuse-moi, tu m'entends pendant une demi-heure de temps, mais j'ai besoin. » Parce qu'on a libéré cette peine-là, en fait, parce que c'est de la peine qui nous habite. On l'a libérée. On va aller dans un groupe de soutien, dans une société à Zalaire, ou n'importe quel groupe de proches aidants. Ça fait du bien. On rencontre d'autres gens, on y va. Et on fait une excellente chose pour la personne qu'on accompagne aussi à ce moment-là.
Je pense que ce que vous dites, c'est un très, très bel exemple, une très, très belle illustration de pourquoi on fait ce projet-là. Hein? Le but, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que quand on arrive à accomplir, des fois, c'est long de comprendre, parce que la personne n'est pas capable de nous l'exprimer. Donc, la personne qui... Il y a un exemple que je donne souvent, 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 parce qu'il est assez court. Il y a des personnes qui développent des difficultés de langage. On appelle ça de l'aphasie. Et donc, puis il y a des personnes qui, parce qu'elles développent de l'aphasie, ne comprennent pas bien le langage, ne comprennent pas bien ce qu'on dit. Alors, quand on arrive à côté d'eux qui ne comprennent pas bien, puis qu'on répète, ça peut devenir irritant. Alors, on répète une première fois, on le dit plus fort. On répète une deuxième fois, on le dit plus fort. On répète une troisième fois, on le crie. La personne n'est pas sourde, elle est aphasique. Alors, la personne ne comprend pas plus ce qu'on dit, mais elle comprend qu'elle vient de se faire crier après dans les oreilles, par exemple. Elle n'est pas capable de le dire. Elle ne sait même pas ce qui se passe dans sa tête. Et là, ben, peut-être que, elle va avoir un geste agressif ou elle va vouloir frapper parce qu'elle vient de se faire agresser, on vient de crier par la tête. Alors, souvent, les comportements, puis on appelle ça les symptômes psychologiques et comportementaux de la démence, c'est des réactions mal adaptées. Parce que la personne n'a plus la capacité d'adaptation. Puis quand on ne comprend pas ce qui se passe des fois, sans le vouloir, on suscite ces comportements-là. Et je vais donner un autre exemple bien cute, parce que je le trouve bien cute, mais pendant la période de la COVID, mon fils avait donné son nom pour aller travailler dans des CHSLD chauds. Et un jour, il me dit, « Maman, je me demande si on fait une bonne chose, parce que vraiment, on est arrivé cette nuit, on a voulu changer une dame, donc changer sa couche. » Et elle s'est mise à hurler, puis là, je me demande si vraiment on fait œuvre utile. Et je décortique avec lui ce qui se passe pour arriver à dire, si la nuit, la personne a un sommeil médicamenté, vous ouvrez la lumière, vous rentrez dans sa chambre, vous avez un chapeau, vous êtes masqué, vous êtes deux hommes qu'elle ne connaît pas, puis vous allez dans ses culottes. Fait que, moi, j'aurais crié. Et là, vu comme ça, et s'il y avait eu cette approche d'ouvrir une petite lumière, de l'appeler par son nom, de dire « Madame une telle, on est, je m'appelle un tel, je m'appelle un tel, si vous voulez, on va vous changer, on va vous laver », ça aurait peut-être tout changé. Puis c'est des petits gestes auxquels on ne pense pas parce qu'on est centré sur la tâche plus que sur la personne. Mais si on était un temps soit peu centré sur la personne, je pense que ça nous aiderait. J'aimerais ça qu'on parle, parce qu'on en a, on l'a évoqué un petit peu, des besoins des proches aidants. Parce que faut pas les oublier, ces gens-là. Moi, je dis toujours, faut prendre soin des gens qui prennent soin dans la vie. Moi, ce que j'ai observé, c'est que les proches aidants vivent énormément de peine, vivent énormément de culpabilité, énormément d'isolement. Puis ceux qui ont le réflexe, puis Mme Choquette, vous en avez parlé, Mme Grenier aussi, d'appeler quelqu'un pour dire « Regarde, tu vas m'écouter une demi-heure, ça va me faire du bien. » Je veux dire, quel bon réflexe. Beaucoup ne le font pas. Il y a une perte de liberté aussi souvent. J'aimerais ça qu'on parle des besoins des proches aidants. Qu'on regarde un petit peu comment les proches aidants peuvent s'aider. On l'a évoqué un petit peu, mais Mme Aguera, donc, vous travaillez beaucoup avec des proches aidants. Vous avez constaté que ce sont des gens qui s'épuisent. On va leur dire « prenez soin de vous », mais prendre soin de soi, des fois, c'est complètement incompatible avec le fait de prendre soin de quelqu'un d'autre. Puis tout ce qu'on prend pour soi, on a l'impression de l'enlever ou de l'arracher à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment les gens peuvent prendre soin de soi?
Oui, c'est vrai que c'est pas toujours accueilli à... pas toujours bien accueilli par les proches aidants quand l'injonction là, de prendre soin de soi, parce que c'est bien gentil, mais c'est pas si facile à faire concrètement quand on est beaucoup impliqué auprès de son proche ou qu'on a d'autres implications, d'autres responsabilités avec le travail, avec les enfants, etc. Donc, c'est pas si facile. Souvent, je trouve qu'une façon de l'amener, c'est déjà de vraiment décortiquer. Ben, je pense déjà que le proche aidant se rend compte que c'est beaucoup d'émotions, puis c'est beaucoup, ça peut être beaucoup de détresse et puis c'est beaucoup de fatigue. Puis, on aime beaucoup en proche aidance l'image là, du sprint versus le marathon. Quand on s'engage dans ce rôle-là, il faut le voir comme un marathon. Il faut s'économiser là, pour passer la ligne d'arrivée, pour avoir de l'énergie jusqu'au bout de la course. Ce n'est pas un sprint où il faut tout faire tout de suite, parce que là, c'est sûr qu'on va brûler son énergie rapidement. Donc, il faut vraiment le voir comme quelque chose de longue haleine si on veut continuer à s'impliquer pendant une longue durée auprès de son proche. Donc, c'est obligé là, de s'économiser. Alors après, encore une fois, on le comprend de façon abstraite, on comprend le principe, mais après, concrètement, comment le faire? Souvent, ça va passer par essayer de regarder, bon, un, quel genre de soutien je peux avoir, que ce soit dans mon entourage ou au niveau des organismes communautaires, des professionnels. Puis des fois, on n'ose pas demander ou on n'est pas convaincu que l'aide sera si aidante que ça, ou on a tendance à aussi voir les choses de façon négative. Là, on est découragé un peu d'avance. Quand on n'est pas bien, quand on est en détresse, on a souvent cette vision-là de oh, ben, ça sert à rien et en quoi ça va m'aider, mais de l'essayer quand même, juste pour voir est-ce que quand même, après quelques temps, ça va pas quand même me donner un deuxième souffle. Les proches aidants ont beaucoup tendance à se responsabiliser, à en prendre beaucoup sur leurs épaules. Puis j'ai tellement d'exemples en tête là, de proches aidants qui s'investissent dans plein de trucs, qui continuent à aider d'autres gens en même temps, de se dire, mais c'est vraiment très beau, mais est-ce que vous avez vraiment l'énergie pour ça maintenant dans vos conditions de vie en ce moment? Puis qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous redonne de l'énergie de le faire ou est-ce que ça vous épuise? Donc, de regarder dans mon investissement, est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être pas de ma responsabilité ou je peux passer le relais à quelqu'un d'autre. Puis ensuite, c'est d'identifier comment je fais pour refaire le plein d'énergie. Puis ça va vraiment avec chacun ses besoins. Donc, il y a certains proches aidants, leur vécu émotionnel est plus teinté, par exemple, par la peine. Alors là, peut-être qu'ils ont plus besoin de se confier à des proches ou d'aller à des groupes de soutien ou de l'exprimer d'une autre façon, peut-être par de l'art. Il y a plein de façons d'exprimer sa peine. Il y a d'autres proches aidants, ils ressentent beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Bon, mais là, ça ne sera peut-être pas les mêmes stratégies. Peut-être qu'ils vont aller faire plus d'exercices physiques pour se défouler ou peut-être qu'ils vont s'entraîner avec des stratégies de relaxation pour, tu sais, calmer un petit peu leurs émotions. Donc, faut ajuster les besoins aux besoins du proche aidant, puis aussi trouver des activités qui sont significatives pour lui ou pour elle, qui vont lui redonner vraiment de l'énergie. Par exemple, j'ai plusieurs proches aidants qui sont aussi grands-parents, puis des fois qui me disent, oh, ben là, je vais prendre mes petits-enfants pour 2 semaines à la maison. Puis là, moi, je me questionne, OK, mais avez-vous l'énergie pour ça? Avez-vous évalué ce que ça va représenter? Puis des fois, ils le vivent plus comme un autre fardeau, là. Ils sentent qu'ils n'auront pas vraiment l'énergie pour ça. Mais d'autres fois, au contraire, on voit leurs yeux s'illuminer. Ah, mais mes petits-enfants, je les aime tellement. Puis on va jouer, on va aller au parc. Donc, on sent que oui, ça leur redonne de l'énergie. Ça va être vraiment bon pour eux pour, encore une fois, se retrouver ce deuxième souffle. Donc, c'est à la fois comment je réduis un peu mes dépenses d'énergie, finalement, mon engagement, de façon à pouvoir continuer à plus long terme, mais aussi comment je recharge mes batteries régulièrement pour pouvoir tenir le coup.
Donc, la bonne question à se poser, c'est est-ce que c'est quelque chose qui va me donner de l'énergie versus ce qui va m'en enlever? C'est que c'est quelque chose qui va me donner du plaisir versus un devoir de plus à faire, finalement. Madame Choquette, ça a été quoi, à part appeler votre sœur? C'est parce que vous l'avez fait le marathon. Ça a été quoi, vos exutoires?
Il y a un épisode. Ah, celui-là, je pense que ça a été le des pires, étant donné que c'est lorsque ma mère était à la résidence avant d'aller au CHSLD, on m'appelle pour me dire qu'il y avait des punaises de lit dans tout l'étage, le premier étage où était ma mère et tout, et donc dans sa chambre, et qu'il fallait tout laver, et c'est ça. Et moi, j'ai vraiment une phobie, je vous dis pas des punaises de lit là, Ça, pour moi, c'était le bout du bout, là, dans négativement. J'ai dit, mais qu'est-ce que je faisais? Eh bon Dieu, pour m'envoyer cette épreuve, ça me dérange pas de changer des couches, de recevoir des colères, mais ça, les punaises de lit, je pense que j'aurais pas la force. Et je dois vous avouer, moi qui ai vraiment une nature, je suis chanceuse, je suis toujours joyeuse et puis je trouve toujours avec la créativité quelque chose pour m'en sortir. Mais j'ai presque honte de le dire, mais je vais le dire. Mais pendant 5 minutes à peu près, je me suis dit, ben, au pire, si jamais je ramène ça chez moi puis que j'ai des punaises de lit dans tous mes costumes de scène puis dans toute personne va vouloir me voir, je peux. Il y a toujours le suicide. C'est horrible, mais vous dire à quel point ça me stressait pour que moi, après avoir vu ma fille tant souffrir et vouloir s'enlever, que je pense à ça. J'ai eu honte tout de suite après, mais c'était pour vous dire jusqu'où ça va parfois. Alors, j'arrivais chez moi, je me mettais à poil dans l'entrée en priant que mon gendre ne descende pas. À un moment, c'était d'arriver chez moi, puis j'avais l'impression qu'il y en avait partout, puis ça me piquait partout et tout. Puis au fond, c'était maman qui était piquée, puis qui souffrait, puis tout. Puis, en tout cas, mais ce qui m'a, mon conjoint, pour vous dire, évidemment, je me confiais et tout. Puis, il a entendu dire que les machines à vapeur, parce que moi, de mettre des produits chimiques dans ma maison, j'ai 3 chats, puis je suis chanteuse, je fais attention à mes poumons, ma voix. Les machines à vapeur, ça peut, on peut en venir à bout de façon naturelle. C'est qu'il m'a acheté une méga machine à vapeur. Puis là, je me sentais armée jusqu'au dos. Et c'est ça qui m'a permis de passer à travers. Donc, c'est pour dire que mon conjoint, il a écouté ma détresse. Puis il a fait quelque chose. Je me suis dit, oh, ça a coûté comme 1 000 $. Mais c'est pour dire, j'ai honte d'en parler. Mais des choses comme ça peuvent prendre des proportions, là. Ah, c'était... mais c'est ça. Donc, c'est vraiment...
Mais merci de nous en parler parce qu'il y a 2 éléments, à mon avis, fondamentaux dans ce que vous dites. Le premier, c'est que vous avez eu du soutien de votre conjoint.
Oui.
Même s'il n'était pas aussi phobique que vous, même si il vous êtes senti soutenu, de un, et deux, il vous a redonné avec cette machine à laval du contrôle sur une situation où là, vraiment, parce que je pense qu'il y a une chose qu'il faut dire dans l'épuisement aussi qu'on peut vivre, c'est qu'on peut perdre. En fait, ça nous enlève, ça met en échec quand on est trop épuisé puis quand les émotions sont trop fortes, la capacité de raisonnement, de jugement puis la capacité de trouver des solutions. D'où l'importance, justement, d'aller vers quelqu'un d'autre. Madame Grenier, des stratégies, des conseils aux proches aidants pour pas qu'ils s'épuisent.
Ben, c'est toujours facile de donner des conseils. Quand on n'est pas dans la peau de l'autre aussi. Je suis toujours un petit peu hésitante de dire ben, ce que je conseille, c'est ça. On m'en a conseillé plein de choses, mais je voyais mon quotidien, je voyais mes responsabilités aussi à travers de ça. Déléguer, c'était pas facile parce que j'avais l'impression que je passais le fardeau à quelqu'un d'autre, puis c'est pas tellement dans ma nature de remettre la responsabilité aux autres. Puis je vais juste faire une petite parenthèse. Ça prend du soutien pour les prochains ans. Parce que ce qu'on entend présentement aussi, quand je vous dis que c'est important aussi de parler de ce que vit la personne qui est atteinte, c'est que l'impression que ça donne, c'est qu'à partir du moment où tu as un diagnostic, la personne qui vit la maladie devient le fardeau du prochain an. C'est un peu vrai, mais c'est pas que ça non plus. Et que la maladie, elle évolue, il n'y a pas que des mauvais moments, même quand tu as un diagnostic. Donc, c'est de passer, c'est d'évoluer parce que notre rôle de proche aidant évolue aussi à travers de ça. On passe de l'accompagnement parce qu'elle ne peut plus conduire son véhicule jusqu'au moment où elle a de la misère à se rendre à son lit le soir. C'est d'aller chercher, c'est peut-être de prendre un pas de recul des fois puis se regarder dans le miroir. C'est de se dire qu'on n'est pas tout seul à avoir la solution. Je sais que je prêche, là, puis c'est... Mais parce que je sais aussi c'est quoi la détresse. Mais peut-être que c'est de s'avouer la détresse qu'on a aussi et d'y travailler. Puis de faire en sorte, puis on a peur des fois de se plaindre à quelqu'un qu'on n'en peut plus. Mais peut-être que la personne qui va l'entendre, ça va faire longtemps qu'elle se rend compte qu'on n'en peut plus. Donc, c'est d'avoir cette humilité-là, de travailler avec son humilité, son orgueil, des deux, à faire en sorte de dire, OK, c'est correct, là. Si on ne peut pas élever un enfant tout seul, ben, je ne peux pas m'occuper de mon proche comme ça tout seul non plus. Donc, c'est d'aller vers l'autre, c'est de dire qu'on a besoin d'un break. Et c'est pas toujours bien reçu, je suis d'accord. Une fois où j'ai appelé ma soeur, puis que j'ai dit, hey, là, 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 ben oui, mais Sylvie, tu sais, c'est la maladie qui fait ça. Et que c'était pas ça que j'avais envie d'entendre, mais je le savais, mais j'avais donc choisi son monde aussi, peut-être, et aller chercher. Le conseil que je donne, c'est d'aller chercher de l'aide. Aller chercher, il y a de plus en plus de formations aussi pour le prochain an. De la formation pas pour être un meilleur prochain an, pour comprendre justement ce qui se passe avec la maladie. Aller chercher ce soutien-là. Le temps que vous passez là-bas, d'abord, vous rencontrez d'autres gens, mais aussi vous allez vous outiller un peu plus. Puis vous avez... Et quand vous revenez, là, ben, votre proche est encore là. Il vous attend, c'est certain. Et vous y avez rendu service. Parce que vous avez pris un break, vous êtes de meilleure humeur, vous avez pris une tasse de café, un verre de vin avec des amis, puis on repart. Puis je sais, ça m'est arrivé. Puis je souhaite que les gens le fassent. Puis j'ai été longtemps, vraiment longtemps, à me dire que je pouvais pas. Puis j'avais des jeunes enfants, blablabla et tout ça. Mais c'est mon conjoint qui m'a dit, tu devrais sortir plus souvent. Fait du bien à moi, en tout cas. Mais c'est pour dire qu'il n'y a pas un conseil qui peut être bon, c'est on se connaît, qu'est-ce qui nous fait du bien, puis se réserver cette parenthèse-là aussi à travers le soutien qu'on a.
Ben, je dirais qu'il y en a peut-être un conseil qu'il faut retenir, c'est être sensible à ce qui se passe en dedans de nous.
Oui.
Être sensible à ce qui se passe. Il n'y a pas de recette universelle, parce que les proches aidants, on a tous les mêmes besoins, mais avoir un baromètre intérieur pour ne pas s'oublier, parce que Madame Aguera a donné l'exemple du marathon. Hein? Elle a dit, c'est un long shot, c'est pas un sprint, c'est un marathon, on va courir longtemps, il ne faut pas s'épuiser. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'image du masque à oxygène dans l'avion. Donc, on dit souvent aux parents ou aux adultes autonomes, s'il y a une dépressurisation, vous mettez le masque sur votre nez d'abord, parce que si vous tombez d'un pôle, tout le monde autour va tomber d'un pôle. Alors donc, il faut être capable de s'oxygéner pour être capable de bien intervenir avec les autres. Fait, le prenez soin de vous. Et je pense que la façon dont, puis on l'entend, hein, prenez soin de vous. Oui, mais comment? Qu'est-ce qu'on offre aux proches aidants? T'sais? Puis je pense que ce que les proches aidants aimeraient, puis c'est ce que Mme Grenier dit un peu, aimerait entendre des fois, c'est qu'est-ce qui pourrait t'aider? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Est-ce que c'est d'aller te porter des repas? Est-ce que c'est d'aller rester avec la personne que tu aides pendant une journée? Est-ce que c'est de faire des... Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Et surtout de valider aussi dans ce qu'on peut vivre. Fait que je pense que c'est important d'être sensible à ce qui se passe en dedans de nous. Et moi, s'il y a un conseil que je donnerais, c'est de ne pas voir le prendre soin de soi comme étant opposé à prendre soin de l'autre. Parce que j'ai commencé en disant, on a souvent l'impression que ce qu'on prend pour soi, on l'enlève à l'autre. Je pense qu'il faut changer la façon de voir cette chose-là, puis dire, je prends soin de moi pour mieux prendre soin de l'autre. Et c'est vraiment ça qui arrive. J'aimerais ça qu'on parle maintenant de l'expérience positive, parce que vous avez été quelques-unes à l'évoquer, puis je pense qu'on peut tous l'évoquer, parce que c'est dur. Ça, c'est une réalité qui est dure, on ne se le cachera pas. Okay? Mais il reste qu'à travers, j'aime pas ça dans la vie dire à quelque chose, malheur est bon. Pas nécessaire d'avoir des malheurs dans la vie. Mais il reste que, oui, ça apporte quand même certaines expériences positives. Et peut-être je commencerai par Mme Choquette. Qu'est-ce que ça nous a apporté de bon, de beau, de...
Bien, ma première expérience avec ma belle-mère, ça m'a fait découvrir vraiment le charme des aînés. Elle était trop mignonne elle chantait, elle avait une voix très grave et elle chantait des chansons de l'époque, Mario Lanza et tout. Donnez-moi par pitié la tendresse, avec ses petits trémolos. Et puis c'est ces petits moments de charme, les petits échanges, même si, bon, on s'entend que c'est pas facile, on était dans un 4,5 avec elle, mon mari, puis Florence. Donc, mais à force de la connaître et de découvrir aussi sa culture, qui était très différente de la mienne, et d'apprendre. Finalement, une chose très stimulante, c'est la passion d'apprendre. Avec Florence, ce qui était beau, c'est évidemment, c'est que ça m'a permis de développer aussi parallèlement une relation vraiment privilégiée avec sa fille, ma petite fille Alice, que j'ai élevée parce que le papa est parti. Donc, je suis devenue l'autre parent d'Alice. Et puis, mais vous disiez tout à l'heure que, comme vous avez mentionné le comme un enfant, comme quelqu'un, quand on aide quelqu'un, un proche qui a besoin d'aide, ça devient comme un enfant. Et c'est vrai, mais tous les parents sont des proches aidants, finalement. Les nuits blanches, les toujours devoir être là, puis c'est quand même au moins 18 ans là, d'implication, et ça finit jamais. Mais c'est donc, ça fait vraiment partie de la vie. Donc, avec Florence, ça a été aussi, je pense que c'est vraiment l'espoir de ces petits moments d'amélioration, de sourire. J'avais demandé à un ami qui avait une fille qui avait la paralysie cérébrale. Et vraiment, c'était un ami très, très proche. Donc, j'ai osé lui poser la question parce que c'est sûr que l'enfant était maintenu en vie par toutes sortes de choses, des tubes, et je dis, mais est-ce que, comment qu'est-ce qui fait que, pour lui, devant la souffrance de cette personne, ou ce qu'on pense être une souffrance, pourquoi est-ce qu'on veut prolonger sa vie? Et il m'a regardé, il m'a dit, c'est parce qu'on a toujours espoir que la science découvre quelque chose qui va l'aider et améliorer sa condition. Et je pense que c'est ça aussi qui fait. Et quand on dit aider, améliorer sa condition, ça ne veut pas dire qu'elle va être comme si elle n'avait jamais eu de paralysie, mais au moins que il s'accrochait à, et dit quand je vais la voir, je sais qu'elle ressent quelque chose parce qu'elle cligne des yeux. Donc lui, il ne vivait que pour ce petit moment-là, sa prochaine danse, c'est l'espoir. De vivre un moment de bonheur, d'échange, de communication avec son proche. Puis avec mon père, il n'y a pas été facile. C'était tout un personnage. C'est pour ça que j'aime l'opéra.
Merci, Madame Magara.
Oui, c'est vraiment super intéressant, les témoignages. Puis je suis sûre que tous les proches aidants reconnaissent des petits exemples de leur propre vie quotidienne aussi. Parce que ça fait vraiment écho à ce qu'on voit dans la littérature. En fait, dans la recherche, on s'intéresse plus à ce qu'on appelle les aspects positifs de la proche aidance, parce qu'en fait, c'est des facteurs protecteurs. Les proches aidants qui arrivent à se centrer davantage sur les aspects positifs sont moins à risque d'être épuisés ou de faire une dépression, de vivre beaucoup d'anxiété. Puis c'est exactement ce qu'on retrouve là dans les études, que les proches aidants peuvent sentir qu'ils retrouvent un sentiment de compétence, d'apprentissage. Ils ont appris plein de choses sur la maladie. Ils ont appris comment fonctionne le système de santé. C'est vraiment difficile. Donc, on apprend plein de choses sur plein de thèmes. Puis faut se le redonner là, à un moment donné, de se dire « Hey, j'en ai appris beaucoup ». Même au niveau de certaines tâches, notamment pour les couples, mais aussi avec les enfants, au fur et à mesure de la progression de la maladie, quand la personne est moins capable de faire certaines tâches, par exemple gérer le budget, etc., c'est le proche aidant qui va souvent donner son soutien. Mais des fois, on apprend des choses qu'on ne savait pas faire avant. Là. Donc, puis des fois, des grosses choses, là, les papiers légaux, tout ce qui est gestion financière, peut-être vendre le chalet, des choses comme ça. Avec des fois, des proches aidants, après coup, se disent « Hey, j'étais bonne quand même, j'ai réussi à faire tout ça alors que ça me stressait beaucoup, j'ai jamais fait ça de ma vie. » Donc, d'avoir cette reconnaissance-là de ce qu'on a appris, on est un peu sorti de notre zone de confort, mais on a été capable, puis ça a été intéressant d'une certaine façon, cet apprentissage-là. Et puis, tous les aspects dans la relation, tous les petits moments de complicité qu'on a encore avec la personne, le sentiment de redonner aussi à la personne qui peut-être nous a aidés aussi par le passé, le fait de se reconnecter avec ses valeurs, sa motivation, mais pourquoi je le fais, Plus je suis connectée à ces valeurs-là, à cette motivation-là, mieux je vais le vivre. Puis on le voit bien juste au travail, là, quand on part le matin au travail, si on part en se disant oh, ben là, j'ai une grosse journée, ça va être difficile, ça me tente pas vraiment. Mais si je repense à mais pourquoi je le fais ce travail-là, c'est quoi ma motivation à faire ce travail-là? Mais là aussi, ça me redonne un peu un second souffle. Puis là, je suis comme plus connectée avec OK, là, je suis correcte de le faire, puis ça me tente plus de le faire d'une certaine façon. Donc, on retrouve souvent ces exemples-là comme dans les aspects positifs, là. Puis des fois, on y pense plus comme plus tard après coup quand on repense à certaines expériences, mais d'y penser même quand on est dedans, de prendre ce pas de recul-là, puis de se dire, hey, j'ai appris plein de choses, j'ai bien aimé aujourd'hui, on a eu un beau moment de complicité, de repenser même quand on est dedans à ces moments-là, je pense que c'est vraiment très aidant.
J'aime beaucoup cette conversation-là parce que je la trouve très, très, très groundée. Parce qu'on se dit, la prochaine danse, c'est vraiment pas facile. C'est une réalité qui est difficile. Mais en même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans. Et tu sais, dans le fond, ce que moi j'ai entendu beaucoup, puis ce que j'ai vécu aussi, c'est que je pense que c'est probablement le paroxysme d'une relation d'intimité. C'est un petit peu le comble de l'affection aussi. Et il y a à peu près juste dans d'autres situations pour des enfants qu'on fait ça, mais c'est vraiment. Puis Mme Muriel disait, j'ai appris beaucoup sur moi, j'ai appris sur ma famille. Je pense qu'on l'entend beaucoup. Donc, ça nous apprend sur nous, sur notre résilience, sur la relation, sur la résilience de l'autre aussi, et sur la façon de composer avec ça. Puis, je pense que même si c'est difficile, après, il n'y a pas de regret. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'accomplissement. Il y a quand même un sentiment de plénitude qui reste, parce que c'est une expérience, je pense, assez unique. Puis, je dis souvent, c'est une expérience qui se comprend de l'intérieur. C'est-à-dire que ça ne se comprend pas juste intellectuellement ou parce qu'on a étudié. Ça se comprend dans le vécu. C'est pour ça que les regroupements sont très, 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 très aidants. Je pense qu'il y a plusieurs éléments à retenir aujourd'hui. Donc, et là, je regarde mes collègues ici. Premièrement, quand on prend soin d'une personne, ne pas oublier qu'elle est là. Ne pas oublier qu'elle n'est pas un abonné absent. Donc, elle devient vraiment partenaire de ses soins et on est là pour elle. Donc, il ne faut pas l'évacuer. Première des choses. Deuxième des choses, d'essayer de comprendre ce qui se passe au-delà de ce qu'on observe, au-delà du symptôme, au-delà de ce qui est dit, qui peut nous blesser parfois, qui peut nous troubler parfois, qui peut nous faire de la peine. Essayer de comprendre pour être capable de mieux intervenir. Ensuite, ne pas s'oublier et ne pas trop culpabiliser quand on prend soin de soi parce que c'est une façon. Et là, c'est chacun qui sait de quoi il a besoin et puis comment prendre soin de soi, mais c'est une façon de mieux prendre soin de l'autre. Il ne faut pas mettre ça en opposition, ces deux éléments-là. Et finalement, se rappeler que oui, c'est difficile, on ne peut pas nier que c'est difficile, mais qu'à terme, il y aura quelque chose de riche et de satisfaisant. Puis même des surprises, parce que étonnamment, dans les moments où on est très, très, très épuisé, parfois, on souhaite qu'il y ait une fin. Puis quand la fin arrive, ben, on ne peut pas croire qu'on s'ennuie des moments. Une fois qu'on s'est reposé, là, qu'on s'ennuie de ces moments-là. Alors, je voudrais remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup nos trois panélistes, donc Mme Agaran, Mme Grenier, Mme Choquette. Ça a été très, très, très généreux, vos partages. Merci infiniment. Puis ça a été, j'ai appris beaucoup. En vous écoutant, je remercie à tout le monde de s'être déplacé aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup.